Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment les fourmis éclairent le monde, un texte d'Yves Boisvert, paru le 21 février 2026, dans la presse. Vincent Leclerc a l'air très relax comme ça, en sirotant un espresso dans une minuscule cafétéria du quartier chinois de Milan. Peut-être l'est-il d'ailleurs, avec 8 Super Bowls, et 3 Jeux olympiques à son actif, sans compter une trentaine de spectacles à travers le monde, dans les petites semaines, une cinquantaine dans les grosses. Leclerc est le PDG de Pixmob, qui produit des expériences lumineuses immersives. Pixmob est impliqué dans la cérémonie de clôture des Jeux, qui aura lieu dimanche dans les arènes antiques de Vérone. La firme montréalaise était également responsable des effets lumineux aux cérémonies d'ouverture à Milan comme à Paris. Le lendemain, il prenait l'avion pour San Francisco, juste à temps pour le Super Bowl. Comment tout ça a commencé? Par l'intuition que les insectes ont compris quelque chose qui nous échappe. Tu regardes une fourmi toute seule, bof. Un termite aussi. Mais ensemble, en communiquant, ils créent des mondes impressionnants, s'émerveille Vincent Leclerc. On est tous d'accord. Mais comme plan d'affaires, c'est assez ésotérique, convenons-en. Leclerc, après un double bac mêlant art et informatique, s'est ramassé au MIT pour sa maîtrise. Je travaillais sur une plasticine intelligente, dit-il. L'idée était d'y incorporer des micropuces qui communiquent entre elles pour créer une forme. C'était vraiment, 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 il l'a dit 5 fois, compliqué. Un ami m'a dit « Pourquoi tu travailles sur des petites formes? Tu pourrais travailler à grande échelle. » En une journée, j'ai tout changé. Pixmob venait de naître dans sa tête. L'expérience des foules, avec des briquets, cette espèce de rituel non religieux, je me disais qu'on pouvait l'exploiter. Il a fallu des années de recherche. Au départ, des petits contrats avec des firmes d'architecture, des musées, l'Auto-Québec. Un jour, dans un festival, il rencontre Michel Laprise, aujourd'hui directeur créatif du Cirque du Soleil. Il lui parle de ses idées. 4 ans plus tard, Laprise l'appelle. Microsoft avait embauché le Cirque pour lancer sa nouvelle console de jeu. Ton idée, ça marche? J'ai dit oui, oui, ça marche. Mais ce n'était pas prêt du tout. J'ai appelé mes amis du MIT. On a travaillé 2 mois pour développer notre produit. On a travaillé jour et nuit. Pour simplifier, mais surtout parce que je n'y connais rien, disons que la technologie de Pixmob repose sur des rayons infrarouges dirigés vers la foule. Les spectateurs ont un objet connecté qui répond aux commandes pour faire des effets lumineux. Il aurait pu frapper un mur. Ce fut un immense succès. 3000 personnes, avec des ponchos lumineux, dessinaient des motifs dans la foule. Les portes allaient s'ouvrir. Un jour, on fera le bilan de toutes les portes ouvertes par le Cirque du Soleil à des artistes, créateurs et entrepreneurs québécois à travers le monde. Des sociétés de cette envergure-là ont des retombées innombrables et insoupçonnées. Ils nous ont vraiment pris par la main. On se serait planté s'ils ne nous avaient pas aidés. Je n'avais aucune idée de ce que c'était faire un show. Je ne connaissais même pas les mots. Ils nous ont formés, sans compter leurs employés avec qui on travaille. Le cirque a vraiment une influence déterminante sur le rayonnement du Québec, dans le monde. Il y a eu ensuite une collaboration avec Moment Factory, qui faisait les effets lumineux d'Arcade Fire au festival de Coachella. Les deux firmes montréalaises ne sont pas en concurrence. Au contraire, elles travaillent souvent ensemble. Ils sont davantage dans la création de contenu, presque de la scénographie. Nous, on amplifie les idées des autres. Les spectateurs présents se souviennent encore des milliers de ballons de plage géants illuminés lancés dans la foule. Ensuite, on a inventé un transmetteur qui permettait de faire de la vidéo dans la foule. J'ai dit, on va le proposer pour les Jeux de Sochi et le Super Bowl. On ne sait jamais. Une semaine plus tard, les deux disaient oui. Oups! Là, on était dans la marde. Mais encore une fois, ils ont livré. On a appris à livrer, à être rigoureux, et ça aussi, c'est l'héritage du Cirque du Soleil, dit Vincent Leclerc. On n'est pas seulement des artistes, il y a quelque chose de presque militaire dans ce qu'on fait. Et c'est ce qui fait une réputation dans ce petit monde d'environ 500 personnes sur la planète qui fabrique de grands spectacles. 12 ans après Sochi, PixMob est passé de 15 à 150 employés à Montréal, en plus d'avoir acquis une firme aux Pays-Bas. Les 4 grandes ligues de sport professionnelles retiennent leurs services. On a inventé un problème. Tu investis de l'argent et ça ne rapporte rien de chiffrable. Les gens sont juste plus contents. C'est dur à expliquer à un conseil d'administration. Dans certains cas, ils se surajoutent à un concept. D'autres fois, ils font partie de la conception. Comme avec Bad Bunny, qu'ils ont connu quand il n'était qu'une vedette locale à Porto Rico. Ça se voit, il aime vraiment les gens, l'énergie de la foule. Sa commande, c'est toujours « Qu'est-ce que je peux donner de plus cool à mes fans ?» Des caméras dans le cou de chaque spectateur. À ce moment, il travaille sur la prochaine tournée de Coldplay, tandis que celle d'Indochine achève à Paris, etc. Il y a un changement culturel qui est en train de se passer, dit Vincent Leclerc. Les fans sont de plus en plus impliqués dans le spectacle. Et les artistes dépendent de plus en plus des spectacles pour leurs revenus, les redevances de la musique en ligne étant faméliques. On est dans une position unique pour amplifier ça. Je me dis, on a 30 millions de fans. Comment on se rend à 300 millions? En ce moment, on fait des shows de 10 000 personnes et plus. Sinon, c'est trop cher. Mais comment devient-on accessible au MTLUS et pas juste pour les artistes du top 10 de Spotify? On veut se démocratiser. Un travail de fourmi, mais de fourmi lumineuse. C'était « Comment les fourmis éclairent le monde », un texte d'Yves Boisvert, paru le 21 février 2026, dans la presse.
Croit que le Canada doit s'inspirer du modèle social du Groenland. Un texte de Dylan Robertson, de la presse canadienne, paru le 14 février 2026 dans Le Devoir. Alors qu'Ottawa envisage d'utiliser les dépenses militaires pour développer les infrastructures dans le Grand Nord, les Inuits souhaitent que le Canada s'inspire du Groenland, où un modèle social nordique, adapté aux besoins locaux, a permis de mettre en place des services de santé, de logement et d'éducation jugée supérieure à tout ce qui existe dans l'Arctique canadien. Nous avons beaucoup à apprendre d'eux, a déclaré Lukasi Whiteley Tukyapik, qui dirige Sakijuk, un organisme inuit de bien-être situé à Koudjouak. S'exprimant dernièrement lors d'un vol nolisé reliant Montréal à Nuuk, la capitale du Groenland, où il assistait à l'inauguration du nouveau consulat du Canada, M. Whiteley Tukyapik a affirmé que les services offerts dans sa communauté, un centre névralgique du nord du Québec, sont inférieurs à ceux disponibles à Iqaluit. Nuuk, quant à elle, a des générations d'avance sur nous en matière de services sociaux gérés par les Inuits et offerts dans des bâtiments bien entretenus, a-t-il soutenu. Territoire autonome du Danemark, le Groenland offre un système de santé universel, une assurance chômage, des soins dentaires gratuits pour les enfants, des services de garde subventionnés et un enseignement généralement gratuit. Nuuk dispose d'écoles modernes et d'un hôpital 4 fois plus grand que celui d'Iqaluit, alors que sa population n'est que 2,5 fois supérieure. Selon le groupe de réflexion britannique Amber, le Groenland tirait 87 % de son énergie de l'hydroélectricité en 2022 contre 59 % en 2000. Le Nunavut, quant à lui, dépend presque entièrement des énergies fossiles comme le diesel. Le recensement de 2021 a révélé que 53,1 % de la population du Nunavut vit dans des logements surpeuplés, tandis qu'un tiers vit dans des habitations plus ou moins délabrées. Nuuk possède des maisons aux couleurs vives, des centres culturels et des bibliothèques, notamment parce que le socle rocheux y est plus facile à construire que le pergélisol d'Iqaluit. Le territoire danois est toujours aux prises avec des enjeux de suicide et de tuberculose, des problèmes sociaux qu'il partage avec les communautés inuites du Canada. Mais M. Whiteley Tukyapik a indiqué qu'il déploie davantage d'efforts pour améliorer les conditions de vie. Ils rencontrent les mêmes problèmes sociaux, mais ils y accordent une plus grande importance et ils sont une priorité absolue, a-t-il expliqué. Leur réseau de santé, leurs programmes sociaux, leur approche de la prévention du suicide, ils ont mis en place de nombreux programmes efficaces et ils travaillent à leur amélioration. Prendre en compte une culture distincte. Stephen Arnfjord, professeur à l'Université du Groenland et directeur du Centre pour le bien-être arctique, a expliqué que les atouts du modèle social du territoire résident dans la capacité des dirigeants inuits à décider de l'utilisation des fonds alloués aux services sociaux par Copenhague. Nous formons nos propres travailleurs sociaux afin qu'ils comprennent la culture, la langue, tout, lorsqu'ils interagissent avec les clients. Il ne s'agit pas de travailleurs sociaux venus de Toronto, d'Ottawa ou d'ailleurs qui doivent s'adapter rapidement, a-t-il détaillé. Ce n'est pas un territoire, c'est une nation. Les Groenlandais bénéficient de la plupart de leurs soins médicaux sur place, sans avoir besoin de se rendre au Danemark, a expliqué M. Arnfjord. Lorsqu'ils doivent se rendre à Copenhague, Les Inuits du Groenland séjournent dans des hébergements adaptés à leur culture, gérés par des organisations inuites, à l'instar des services proposés à Ottawa et à Winnipeg. Du milieu des années 1950 au début des années 1970, le Danemark a réalisé des progrès considérables dans la lutte contre la tuberculose en envoyant un navire spécialisé le long des côtes du Groenland pour effectuer des dépistages par radiographie. Le bateau transportait les malades vers un centre spécialisé à Nuuk pour y être soignés, avant de les renvoyer chez eux avec un plan de convalescence complet. Le professeur a comparé cette pratique à celle en vigueur autrefois dans le Grand Nord canadien, où les personnes soupçonnées d'être atteintes de tuberculose étaient systématiquement envoyées dans des hôpitaux du Sud, parfois dans des conditions de promiscuité. Nombre de ces patients ne sont jamais rentrés chez eux, car ils décédaient dans le Sud, où ils restaient. M. Arnfjord a toutefois souligné que le système social groenlandais n'est pas aussi réactif qu'il le devrait face aux évolutions démographiques, contrairement au Danemark ou à la Suède, où les gouvernements ajustent constamment leur système de protection sociale pour répondre aux nouveaux problèmes et aux changements démographiques. Il a ajouté que les services sociaux groenlandais accordent encore trop d'importance à l'individu pour traiter des problèmes comme la toxicomanie ou l'itinérance, ignorant l'impact des familles inuites élargies. M. Arnfjord a raconté avoir assisté à une réunion parents-professeurs au Groenland, organisée comme au Danemark. L'élève est considéré comme le principal responsable de son apprentissage. Selon lui, cela va à l'encontre de l'éthique inuite qui attend de la famille qu'elle collabore pour soutenir l'éducation de l'enfant. Améliorer les infrastructures. Le président d'Inuit Tapiriit Kanatami, Nathan Obed, représente les Inuits de 51 communautés de l'Arctique canadien où les soins contre le cancer et les accouchements nécessitent presque toujours des déplacements par avion vers des hôpitaux du Sud. Bien que les données comparables fassent défaut, M. Obed a indiqué que le Groenland compte beaucoup plus de médecins par habitant et offre davantage de services médicaux que l'Arctique canadien. Andrea Charon, directrice du Centre d'études sur la défense et la sécurité de l'Université du Manitoba, a, pour sa part, fait valoir qu'Ottawa devra améliorer les infrastructures des communautés arctiques si elle souhaite étendre sa présence militaire, car les bases et les aérodromes militaires ne fonctionnent correctement que dans des régions où les logements et les services sont adéquats. Elle a mis en garde contre les promesses non tenues du gouvernement fédéral, soulignant qu'un renforcement militaire ne profitera aux populations locales que s'il respecte la souveraineté inuite et s'accompagne d'un financement dédié sur plusieurs années. C'était « Les Inuits croient que le Canada doit s'inspirer du modèle social du Groenland ». Un texte de Dylan Robertson de la presse canadienne paru le 14 février 2026 dans Le Devoir.
Trump, le paradis et l'angoisse de la mort. Un texte de Boucard Diouf publié dans la presse du 28 février 2026. Dans nos sociétés capitalistes, accumuler de l'argent peut devenir une façon d'apaiser l'angoisse face à la mort. En cause, la fortune aiguise la confiance en soi et donne le sentiment d'être respecté, adulé, courtisé et désiré. Même si le riche danse comme un pied, disaient nos anciens, c'est à l'orchestre que les spectateurs reprocheront de ne pas être à la hauteur de son talent. Chez certains, l'argent, explique le neuroscientifique Sébastien Boller dans « Où est le sens ?», remplace le besoin ancestral du collectif chez les animaux sociaux que nous sommes. Chez certains, l'argent, explique le neuroscientifique Sébastien Boller dans « Où est le sens ?» remplace le besoin ancestral du collectif chez les animaux sociaux que nous sommes. En termes physiologiques, dit-il, dans une partie de notre cerveau appelée le cortex singulaire, l'argent peut remplacer Dieu. C'est peut-être pour cette raison qui relève de la concurrence que la richesse a été diabolisée par la religion catholique, du moins celle qui n'était pas redirigée vers les coffres du Vatican. Aussi, comme nous le démontrent les révélations sur les dossiers Epstein, la richesse en sagesse donne aussi parfois un sentiment inébranlable de toute-puissance et d'impunité. Autrement dit, même si Donald et les ultra-riches qui gravitent autour de Jeffrey Epstein partagent avec nous la conscience de leur finitude, la partie de leur cerveau qui engrange des milliards les empêche de réaliser qu'ils moissonnent pour leurs héritiers. Écartelés entre les trois divinités que sont l'argent, le pouvoir politique et le grand Dieu pour lequel ils vendent des Bibles, le président américain me donne parfois l'impression de douter de son jugement final. En novembre 2025, on l'a entendu dire sur la chaîne Fox News que depuis qu'il a survécu à une tentative d'assassinat, il n'arrête pas de réfléchir sur son but sur la terre et après la mort. Dieu et le paradis s'invitent plus régulièrement dans ses réflexions. En août 2025, lors d'une interview sur Fox News, on a entendu M. Trump présenter sur ses chances d'aller au ciel en ces termes. « Je veux essayer d'aller au paradis si possible. J'entends dire que je ne suis pas bien placé, que je suis vraiment au bas de l'échelle. Mais si j'arrive à aller au paradis, ce sera l'une des raisons. » Fin de citation. Il insinuait ici que mettre fin à la guerre en Ukraine pourrait peut-être aider sa cause. À mon avis, mettre ses chances d'aller au paradis entre les mains d'un prédateur sanguinaire du calibre de Vladimir Poutine n'est pas l'idée du siècle. Que l'on soit croyant ou pas, il est difficile de penser que Donald ira au paradis. Chose certaine, ce que Donald Trump voit dans le rétroviseur de sa vie ne le rassure pas et il exprime cette angoisse sans retenue. En octobre 2025, il a aussi ironisé sur le sujet et sa conclusion était tout aussi pessimiste. Il était à bord d'Air Force One quand il a dit que, citation, « rien ne pouvait le faire entrer au paradis ». Fin de citation. Peut-être aussi avait-il ajouté de façon lucide qu'il n'était simplement pas destiné à y aller. Je parle de lucidité, car Donald Trump connaît plus que quiconque ce que contient son panier de mauvaises actions. Ses doutes semblent motivés par des raisons bien plus profondes que son côté satanique qu'il expose à la lumière du jour. Ce qui le rend incertain est probablement dans une partie cachée de l'iceberg de sa vie, peut-être aussi dans les fichiers inaccessibles des dossiers Epstein. il y a des choses qu'il cherche à se faire excuser lorsqu'il lit son ascension au paradis à toutes ces guerres qu'il répète avoir « arrêtées », entre guillemets. Parmi les autres outils de négociation du président Trump avec son seigneur, il y a aussi sa création d'un bureau de la foi à la Maison-Blanche et sa commission sur la liberté religieuse. Il collectionne les arguments pour pouvoir signer un bon accord avec son Dieu. Lors de son récent discours sur l'état de l'Union, il a tenu à rappeler à son Créateur qu'en Amérique, la religion, la foi, le christianisme et la croyance en Dieu retournaient particulièrement chez les jeunes à des niveaux que personne ne pensait possibles. Poussé par l'autre culte qui l'habite plus profondément, celui de la personnalité, il essaie aussi de trouver des chemins de contournement pour accéder autrement à cette vie éternelle. Comment? En essayant de graver son nom dans le patrimoine bâti américain. Des exemples? Il a donné son nom à un boulevard dans West Palm Beach. Une législature de Floride se prépare à donner son nom au Palm Beach International Airport. Il a rebaptisé le Kennedy Center pour y glisser son nom. Une nouvelle classe de navires de guerre de la marine américaine portera son nom. On entend dire qu'il souhaite que l'aéroport de Washington Dulles et le nouveau stade des Washington Commanders portent son nom. Il aurait exprimé le souhait que la gare de Manhattan, Penn Station, porte également son nom, et d'autres. Que dire aussi du parc monumental qu'il veut ériger à sa propre gloire à Washington? Malheureusement pour lui, plus que les patronymes qu'on impose sans pudeur, la mémoire collective aime mieux les belles traces laissées dans les cœurs. Toutes ces constructions portant son nom vont survivre à son corps, mais elles vont aussi l'exposer de façon posthume au jugement de l'histoire. On peut graver son nom en lettres d'or sur le monde, mais c'est au monde que reviendra l'ultime privilège d'inscrire sa vérité sur notre nom. Fin de ce billet de Boucard Diouf titré « Trump, le paradis et l'angoisse de la mort » publié dans la presse du 28 février 2026.